La plus grande découverte. La plus grande découverte. Je n'avance pas en disant ça. La plus grande découverte du XXe siècle, c'est que l'homme lui-même, chacun de nous, individuellement, est un système solaire. C'est un fait absolument incontestable. Nous sommes, chacun de nous, un système solaire complet. On a dit à satiété que le système solaire était un grand atome et que l'atome est vrai parce qu'il y a certains éléments de l'atome que l'homme ne connaît pas. Il y a certains éléments. Nous sommes au balbutiement de la science de l'atome. Nous sommes peut-être aussi astronomiquement parlant et astrophysiquement parlant dans les balbutiements et sur la connaissance du système solaire lui-même. Mais, s'il est certain que l'homme est fait d'atomes, et que, par conséquent, il est régi par des lois que nous cherchons à définir touchant la science dite de l'atome, il est alors, si cela est dans un domaine encore très spéculatif, il est une chose certaine, l'homme est un système solaire. Ce qui est essentiel, ce que l'entendement humain peut saisir déjà, définitivement, touchant le système solaire, n'appartient pas seulement à la connaissance d'un monde qui est bien au-delà de notre Terre, le système solaire. Cela concerne d'une façon absolument vitale, dynamique, immédiate, brûlante, angoissante même, la réalité même de chacun de nous. Nous sommes ce système solaire, nous sommes une réplique, une analogie absolue de ce système solaire. Nous sommes des systèmes solaires. Et quand je vois la somme d'encre qui est versée pour chercher à expliquer le mystère de l'homme, la structure de l'homme, la connaissance de l'homme, le fonctionnement de l'homme, toutes les psychologies, toutes les graphologies, toutes les différentes façons d'aborder la réalité humaine dans sa diversité absolue, immense, indéchiffrable parfois, quand je sens les tâtonnements qu'il y a là-dedans et quand je vois les contradictions des écoles de psychologie, par exemple, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi chercher midi à 14 heures? La vérité est bien plus simple que ça. Elle est formidable, mais elle est bien plus simple que ça. L'homme est un système solaire. Et quand nos savants, et quand nos psychologues, et quand nos philosophes voudront se donner la peine de réaliser, de s'assurer d'abord de cette affirmation, si elle est vraie, mais lorsque ils voudront se donner la peine d'aller explorer ce dont les astrologues, de quelque école qu'ils soient, et quel que soit par ailleurs leur désaccord entre eux, mais il y a une chose qu'il y a en commun entre tous les astrologues et toutes les astrologies, c'est que l'homme est un système solaire. Quant à interpréter les éléments de ce système solaire, les rapports de ces éléments entre eux, les périodes, les cycles de ces éléments, les effets de ces cycles, les astrologues varient. Oui, c'est entendu. Ils sont humains. Et ils cherchent. Mais ils ont au moins cette vertu suprême au milieu de ce 20e siècle. Ils ont cette vertu suprême qu'ils savent, eux, que l'homme est un système solaire. Et que c'est au fond la plus grande découverte du siècle d'avoir appris ça, d'avoir découvert ça. Ils en sont eux-mêmes tout étonnés. Et c'est une énorme gymnastique, une énorme discipline de l'entendement de l'astrologue qui est humain, formé aux écoles du 19e siècle, dans l'état général de tiraillement de notre époque, de persister à fouiller cette vérité fondamentale que l'homme est un système solaire, et en déterminer les conséquences pratiques et utiles. Il ne s'agit pas, à mon avis, de défendre l'astrologie. Si il est vrai que les autres écoles se défendent contre elle, seront toutes définitivement acculées à une reddition. Oui, oui ou non, l'homme est un système solaire. L'est-il? Alors que les savants y aillent voir. Et un peu vite. Ils n'attendent pas encore un quart de siècle pour le faire. La conscience collective de l'humanité l'a pressentie avant la science dite officielle. C'est toujours comme ça. La science officielle cristallise, coordonne les grands courants qui montent de l'âme collective de l'humanité. Et lorsqu'elle parle assez fort, il faut bien que les universités, qui sont supposées être des foyers de contrôle au centre de lumière, s'occupent de ce qui est la préoccupation majeure du peuple et de la masse humaine. Quand on pense que rien au monde n'est plus facile à démontrer que le fait que l'homme est un système solaire, c'est la chose la plus difficile à expliquer. Nous passons notre vie, nos autres astrologues, à nous donner à nous-mêmes des explications suffisamment adéquates de ce fait et ce que ce fait comporte. Mais, quant à démontrer oui ou non est-ce ainsi, ça se fait en 10 minutes. Et je ne comprends pas ces braves astrologues qui vont se donner une peine effroyable pour aller réfuter des arguments contre l'astrologie par toute espèce de biais, par toute espèce de détour, dans ce fait foudroyant que nous sommes un système, que nous sommes des systèmes solaires, se démontre, je le répète, en 10 minutes. Vous n'avez qu'à prendre le système solaire d'un individu quelconque, rien que pour son jour de naissance, sans même savoir l'heure. Vous avez des positions de presque toutes les planètes à peu près exactes, sauf la Lune, et vous pouvez faire marcher une ou deux progressions là, de vous calculer à l'œil, et quelquefois, par la position du jour de naissance des astres à ce moment-là, l'individu vous saurait d'emblée, si par exemple il y a eu une progression de son Soleil à son Pluton, ou à son Jupiter, et vous saurez tout de suite dire, telle année, vous avez vu la plus grande casse de votre vie, ou peut-être le plus grand honneur. Et il vous dira, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà la première des preuves que nous sommes un système solaire. Et c'est sans répit. C'est tellement simple que c'est horriblement compliqué. Et que l'homme cherche les choses à travers les voies les plus compliquées. Si je devais présenter l'astrologie, dans un monde totalement étranger à l'astrologie, qui s'appelle un monde religieux ou un monde purement, comment dirais-je, disons universitaire, à discuter à penser, je vous dirais une chose, messieurs, vous pouvez argoter toute la fin de journée votre théologie, votre métaphysique théologique, votre christianisme, votre hindouisme, tout ce que vous voulez. Avez-vous réalisé que vous êtes un système solaire? Et si vous ne l'avez pas réalisé, vous perdez votre temps et le mien. L'essentiel est là. Maintenant, donnez-vous la peine d'y aller voir et après, parlons-en. Pour le reste, ce n'est que des mots. Bon. Donc, la première chose, je répète, l'homme est un système solaire. Apprenez un peu à connaître l'astronomie, je sais que le système solaire, vous serez émerveillé. L'homme est un système solaire avec tout ce que ça comporte. Un soleil, un centre. Des planètes, des satellites, correspondent à ce qu'on appellera des attributions de l'être. L'être est des attributions. L'être est des attributs. Les planètes sont des attributs de l'être. Le jeu de ces attributs, leur combinaison, leur cyclicité, leur temps, tout ça correspond au temps du système solaire lunaire, du Soleil et de ses astres. Et cela m'amène ici à la seconde proposition, encore plus extraordinaire que la première. Il y a des poètes, il y a pas mal de gens. Ils sont tout naturellement enclins à accepter l'idée que l'homme est une réplique du système solaire. Il est analogiquement identique au système solaire. Ça, c'est une chose. Ça, c'est déjà une chose formidable. Mais c'est encore une chose purement statique. C'est simplement une chose. Ça ne suffit pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, et où l'astrologie peut aider la science même de l'atome, et l'astrophysique, l'astronomie elle-même, c'est que l'astrologie découvre tous les jours davantage les correspondances dans le temps, autrement dit, les rapports entre l'horloge du système solaire et l'horloge du système humain. Car s'il y a système solaire, il y a mouvement, mouvement cyclique des attributs du soleil, c'est-à-dire votre planète, il y a même un mouvement propre au soleil, et donc dans l'homme, nous devons retrouver exactement ces mêmes mouvements et proportionnellement les mêmes temps pour les mêmes mouvements. Or, c'est ce que nous trouvons. Et c'est ça qui est le plus prodigieux de tout, c'est cette synchronicité des temps entre le temps, qui est le temps absolu, relativement absolu, et le temps que nous donne le système solaire lui-même, dans son jeu centré sur le soleil, et le temps qui nous est donné dans un système solaire qui est centré sur la Terre, qu'on appelle le système géocentré, donc géocentré, et le temps qui est le temps de l'homme. Des temps différents, mais qui s'enchaînent les uns dans les autres avec une perfection absolument effarante. Cette découverte-là, pour moi, c'est la découverte essentielle de l'astrologie du XXe siècle. Cette découverte de la synchronicité des temps entre le mouvement d'un satellite du Soleil et le mouvement d'un satellite du Soleil de l'homme. Et plonger dans l'intériorité du thème, du système solaire humain, en sentir graduellement le battement, la pulsation, en sentir les temps, le jeu des temps à l'intérieur de vous-même, car qui dit un système solaire dit un jeu de temps, c'est l'étude la plus religieuse, la plus inspirante, la plus émouvante qui soit de même. Il n'y en a pas. On se demande, et naturellement, c'est bien là l'un des grands casse-têtes de la recherche astrologique, comment cette synchronicité des temps, ce rapport des temps, peut vraiment fonctionner. Comment se fait-il qu'un système solaire humain, on va parler du système solaire de la Terre même, se synchronise d'une façon si extraordinaire avec celui du Soleil. On croirait, à première vue, que ce sont des choses analogues, mais complètement différentes dans la succession des temps. Mais non. La solidarité dans le temps, je dirais, est encore bien plus grande que la solidarité de notre système dans l'espace. D'ailleurs, nos espaces planétaires ne sont pas autre chose que des fonctions de leur cycle. C'est le temps qui fait l'espace, ce n'est pas l'espace qui fait le temps. Le temps est le maître. Par l'espace. Tout est dans le temps. L'astrologie est une science du temps, entre autres choses. Or, découvrir précisément, ressentir d'abord, et enfin serrer de plus en plus près, le mécanisme de l'horlogerie, généralisée et particulière, comprendre qu'une certaine roue Dante représenterait le système solaire avec tous ses systèmes intérieurs de planètes allant à leur vitesse, et que cette roue Dante se rapporte à une roue Dante plus petite, qui elle marche à une allure 2, pendant que la grande roue fait un tour, la petite fait 60, jamais 61, ni 59, mais 60. Comprendre que cette roue à son tour touche une roue qui elle-même fait 60 tours quand la roue intermédiaire n'en fait qu'un. Et cette démultiplication du temps. Voilà l'un des domaines les plus sacrés, l'un des plus émouvants et l'un des plus ardus de la recherche astrologique. Le plus ardu. D'ailleurs, c'est sur lui que repose tout la théorie ou la science, si l'on veut, de la direction ou des progressions ou des prognostications en astrologie. C'est une question d'interprétation des temps. Voilà ce que je crois nécessaire de rappeler. Quand vous avez devant vous quelqu'un qui vient à l'astrologie pour la première fois et vous aborde avec un petit air impertinent, si vous jugez que la personne en vaut la peine, que vous lui parliez de ça un moment, dites-lui d'abord ceci, sais-tu, savez-vous que vous êtes un système solaire? Vous ne le savez pas? Eh bien, vous êtes un ignorant et allez le voir d'abord, et après on en parlera. Il ne s'agit pas de plaider la cause d'un système solaire dans l'homme. Il ne s'agit pas de lui faire croire. Mais pas du tout. C'est le fait brutal. Moi, la première fois que j'ai découvert ça, et puis plusieurs fois plus tard, j'ai protesté violemment. Comment? Je suis un système solaire? Eh bien, voilà une histoire. Non seulement mon incrédulité se dressait devant l'immensité de la proposition, c'était quand même fantastique et bien audacieux. C'était bien de l'imagination. C'était une utopie. Et d'autre part, il y avait aussi la réalisation que si je suis un système solaire, je suis bien autre chose que ce que mon imagination ignorante imaginait que je suis. Voilà. Et il faut croire que quelquefois, je me croyais supérieur à un système solaire. L'homme est tellement anthropocentré qu'il se croit encore le centre du monde. Et il croit que si lui a péché, ben c'est tout le monde entier qui va en avoir les conséquences, mais que lui en est la source. Que si par contre lui, il est purifié ou sauvé, eh bien tout le monde entier, les étoiles par surcroît, bien au-delà du système solaire, s'il vous plaît, vont en avoir le bénéfice, qui est pure folie. Et tant que notre théologie chrétienne sera anthropocentré, négligeant royalement, comme les théologiens d'avant Galilée, dans ce Moyen-Âge d'une ignorance crasse, le monde stellaire, les réalités stellaires, et que le Dieu de l'univers a organisé ça sur une vaste, une autre échelle que celle que nous imaginons, et que nous ne sommes que des membres très précieux, mais que d'une seule étoile nous-mêmes, et une seule des planètes de notre système, nous retrouverons notre mystique et notre religion. Nous nous prosternons devant la réalisation de cette solidarité universelle, de cette cohésion extraordinaire, de cette solidarité dans le temps et dans l'espace, et de cette simultanéité, de cette spontanéité avec laquelle l'énergie divine, l'énergie alors de l'esprit ineffable qui dépasse notre entendement, a de façon de se distribuer dans tout ça. Je répète, la plus grande découverte de ce siècle, ce ne sera pas tellement l'atome, ce ne sera pas, et Dieu sait que c'est une découverte, ce ne sera pas dans d'autres sciences telle et telle chose, dans la médecine telle et telle chose, ce sera le fait que l'homme est un système solaire. Nous avons tant appris depuis 100 ans sur le monde extérieur. Nous avons si peu appris sur l'homme. Le connaisseur des choses ne se connaît pas lui-même. Et nous rentrons lentement maintenant dans les sciences subjectives, les sciences qui partent sur le connaisseur lui-même. Et ce qu'on appelle l'épistémologie, la science des normes mêmes qui font une connaissance valide, L'épistémologie n'est pas autre chose qu'un retour à la subjectivité des instruments, de ce qui est l'instrumentation par quoi même l'homme peut aborder le monde extérieur. Et tant qu'il ne se connaîtra pas lui-même d'une façon en tout cas égale à la connaissance qu'il a du monde extérieur, il y aura un déséquilibre dans l'homme. Et c'est bien le facteur intellectuel qui domine notre milieu du XXe siècle, c'est ce déséquilibre radical. L'homme a perdu les pédales parce qu'il n'a plus le sens qu'il est lui-même le maître de sa bicyclette. S'il y a une science qui a la mission de lui rendre les pédales, c'est l'astrologie. Et une astrologie qui ne rend pas à l'homme ses pédales, qui ne lui donne pas accès à un monde intérieur encore plus précis et plus systématique que le monde extérieur qu'il observe et qu'il connaît déjà si bien, avec de magnifiques disciplines, si l'homme ne peut pas se discipliner assez pour se connaître intérieurement comme il connaît le monde extérieur, nous marchons en effet à un désarroi total de l'intellect humain. Et c'est la crise fondamentale de la seconde partie de ce siècle. C'est un tournant. L'homme vaincra, l'homme ressaisira les rênes. Il les ressaisira qu'en rentrant en profondeur de lui-même. Et pour avoir accès d'une façon scientifique, systématique, à l'intériorité de lui-même, sans quoi il est perdu devant le poids de l'extérieur, l'astrologie, c'est la science même de la croix, sans quoi il n'y a pas de salut. Voilà donc que pour tout astrologue, l'astrologie est une prêtrise, c'est aussi une théologie et c'est donc une mission. C'est le levain. Nous ne verrons pas la grande astrologie. Notre génération ne la verra pas vraiment à l'œil. C'est pour le 21e siècle. C'est pour l'ère du commencement de l'ère du Verseau. À quoi sert l'astrologie? Une fois que vous savez tout ce que je viens de vous dire d'une façon tellement sommaire, à quoi peut-elle vous servir? Et à une chose. Je crois qu'elle ne sert qu'à une chose. Mais cette chose est centrale. D'abord, évidemment, elle sert en ce sens qu'elle vous ouvre de nouveau les portes du temple intérieur qui étaient apparemment non seulement scellées, mais soudées, et même inexistantes pour beaucoup. Les gens vivent au parvis ou sur le péristyle de leur âme, écrasés, anéantis par le bruit de la rue. Et quand ils veulent rentrer au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas d'accès. Bon. Pouvoir avoir accès à l'intérieur de soi, c'est déjà une utilité de premier ordre, une loi d'équilibre, mais il y a plus que ça. L'argument que l'on présente contre l'astrologie n'est pas un argument contre elle, notez bien, puisque c'est une façon de reconnaître sa validité, c'est de dire, mais c'est un fatalisme alors, et contre cette fatalité qui se présente d'une façon aussi éloquente, que pouvons-nous faire? Marionnettes que nous sommes alors. Est-ce que ça ne nous coupe pas toute initiative et par conséquent toute espérance si notre sort est un sort qui paraît assez désastreux de le changer? C'est l'argument courant. Mais non, il ne servirait à rien de connaître l'astrologie pour connaître uniquement les murs de notre cage. Et l'ordonnance de notre cage, plus dorée qu'elle puisse être, ça ne vient à rien. Je sais par mon expérience, pour moi-même, qui suis humain comme chacun, qui ai mes droits comme chacun, je sais que ce qui est écrit. Oui, parce qu'il y a un ordre, il y a une ordonnance. que cette vie, c'est la suite de quelque chose et c'est la précession de quelque chose d'autre, ça précède. Et que, comment dirais-je, le compositeur de cette symphonie qui est ma vie, et qui me donne peut-être dans cette vie l'adagio, ou le mouvement pathétique, a derrière lui des premières parties, et il a un postlude, il a une apothéose, il a une finale. Je ne la connais pas, je ne connais ni l'un ni l'autre. Ça, je sais. C'est déjà quelque chose de savoir cela, ça me donne une perspective sur ma vie présente. En effet, si c'est écrit, d'une part, certaines choses sont écrites. Il n'est pas écrit. Cela, justement, n'est pas écrit. La somme de compréhension, la somme de pénétration que votre intelligence, que votre connaissance peut faire sur le domaine qui vous en sert et vous assujettit. L'homme échappe à la nécessité, à ce qui est simplement écrit pour une partie de son être. Le thème astrologique a écrit quelque chose définitivement pour une partie de notre être, mais non pas pour sa totalité. Car notre être n'est pas en totalité sur le plan horizontal de la réalité. La totalité de notre être est sur le plan vertical de la réalité. Et les années passent d'un plan horizontal à un autre, mais la verticale reste toujours le mystère intérieur des âmes. Et dans cette verticalité de la croix, dans cette montée intérieure, se trouve le degré de libération de l'horizontal. C'est l'horizontal qui est la fatalité. La verticale, c'est la résurrection. Quand je sais ceci, c'est que lorsque je me vois obéissant, parfait, j'obéis au tenail de mon thème, à certaines heures de certains cycles de mon système solaire, quand je me vois pris dans les tenailles de mon thème à certains moments, si je me donne la peine, si je fais l'effort de chercher les raisons de cette tenaille, de me représenter le jeu complet de la tenaille, le moment où j'ai compris de quoi est faite cette tenaille, et de comprendre objectivement, idéalement, je me sens tout à coup libéré de la morsure de la tenaille. Je n'ai plus le venin de ma situation. C'est qu'une sorte, mon imagination est assainie. Car enfin, notre imagination exagère les choses. Notre imagination ou bien nous donne des leurres, ou bien nous exagère les choses. Plus vous connaîtrez l'astrologie, plus vous serez objectif, plus vous viendrez impersonnel, plus vous vous dépasserez vous-même. Et tout est là. Se dépasser, se voir comme son propre cochon d'Inde, cap toujours arriver finalement à se voir l'acteur n'est pas. Alors, du moment que vous pouvez vous voir être l'acteur, vous comprenez bien que vous n'êtes plus engagé directement, entièrement. Vous n'êtes engagé que sur le bras horizontal, mais pas du plan vertical de votre tête, de votre être. L'astrologie nous aide à nous désengager, à désengager une partie de notre être, une partie de notre être qui était cachée et, comment dirais-je, morte dans le tombeau de nos expériences, car nos expériences sont des tombeaux, bien sûr. Ce sont des prisons, mais c'est souvent des tombeaux. Or, la résurrection, ça ne peut pas être autre chose. dans votre famille, dans votre, avec, une, avec un compagnon. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours là une envie? Pourquoi est-ce que jamais vous ne pouvez réussir d'une façon, disons, matérielle? Ce monde-là semble toujours vous fuir et vous amener des traites. Pourquoi est-ce que le succès dans le monde vous est toujours interdit, quoi que vous fassiez, quoi que vos amis fassent? Découvrir les raisons de ça. Ce n'est pas se débarrasser de ces raisons, mais c'est se débarrasser de la malédiction qu'on s'impose à soi-même. C'est bon, c'est ça. C'est tout d'un coup prendre un recul, on n'est plus sur la terre. On n'est plus engagé. On est au-dessus de sa croix. On n'est pas sous sa croix. On est au-dessus. Elle est partie de la solidarité universelle vivante. Comprendre que les raisons profondes de votre drame intérieur, pourquoi ne pouvez-vous être jamais heureux dans votre famille, dans votre, avec un compagnon? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours là une embûche terrible? Pourquoi est-ce que jamais vous ne pouvez réussir d'une façon, disons, matérielle? Ce monde-là semble toujours vous fuir et vous amener des crêpes. Pourquoi est-ce que le succès dans le monde vous est toujours interdit, quoi que vous fassiez, quoi que vos amis fassent? Découvrir les raisons de ça. Ce n'est pas se débarrasser de ces raisons, mais c'est se débarrasser de la malédiction qu'on s'impose à soi-même. C'est bon, c'est fait. C'est tout d'un coup prendre un recul, on n'est plus sur la scène, on n'est plus engagé, on est au-dessus de sa croix, on n'est pas sous sa croix, on est au-dessus de sa croix. La croix reste, mais on est au-dessus. Et c'est ça la libération qu'apporte l'astrologie. Voilà pourquoi elle mérite toute notre attention et toute notre dévotion. Ceux qui vraiment sentent le drame de la libération des êtres, que c'est la condition sine qua non, et que si nous n'avons pas cette libération graduelle, nous n'avons que l'alternative, qui ne sera pas simplement la jouissance vulgaire de cette vie, mais qui sera purement et simplement la folie de l'homme. Car la folie de l'homme est à deux pas de chacun de nous. Plus je regarde les thèmes humains, plus je les regarde sous l'angle de la solidité de l'intelligence de l'individu. Cette intelligence tiendra-t-elle dans toutes les circonstances? Aura-t-elle une continuité? Aura-t-elle une systématique? Aura-t-elle ce que j'appelle la colle? Est-ce que la mémoire va coller? Est-ce que le rapport entre hier, demain, et avant-hier, et après-demain, va se maintenir d'une façon souple et solide dans l'individu? Est-ce qu'il garde sa tête, oui ou non, à travers la vie? Et dans quelle mesure y aura-t-il la perte de sa tête au cours de sa vie? Ça, pour moi, c'est la chose essentielle. Alors, que faites-vous sans votre tête? Vous avez un gros ventre, une grosse bourse, et une vie animale, très bien, mais après tout, la tête est tout. Voilà pourquoi ces conférences avaient un titre général, l'astrologie au service de l'esprit. Eh oui. Eh bien, voilà. Voilà mon petit testament spirituel ce soir. Les adieux à l'année 56. Voilà, saison d'hiver 55-56. Et maintenant, allons un instant reprendre Neptune et certains carrés de Neptune. J'ai mis là au tableau noir la croix. La croix qui représente toujours le principe derrière tous les carrés. Car le carré, c'est le fonctionnement précis de la croix elle-même. Et j'ai mis le Neptune au sommet, correspond à une dixième maison, soit à la volonté du ciel. Et un Neptune à la quatrième, au fond du ciel, qui représente aussi l'axe de montée de la vie, l'axe du sens des choses, l'axe qui commande l'autre. Et j'ai mis à l'ascendant les planètes dont je veux parler ce soir en quadrature de Neptune. L'autre jour, j'ai touché Vénus, Mars et la Lune. Aujourd'hui, je veux toucher brièvement le Soleil, Mercure, Jupiter et Saturne. Je rappelle qu'il y a dans le carré deux carrés qui ne sont pas du tout des carrés équivalents. Que Neptune carré Soleil, par exemple, que Neptune là, le carré dextre, lorsque la grande planète qui commande le carré, c'est Neptune, est en avant, n'est pas du tout le même carré que quand le Soleil est carré à Neptune en dix. Que c'est le principe de l'ascendant face à la dixième maison, que la dixième maison est toujours une quadrature de l'ascendant, une quadrature céleste, et qu'elle repose sur le principe qu'elle donne, elle nous donne, tu es au monde, tu prends conscience de toi, première maison, ascendant, parce que, et au nom de, ce qui se plane au ciel, dixième maison. C'est au nom de ça que tu es au monde. C'est au nom de votre dixième maison que vous fonctionnez en première. Toutes les autres maisons sont subordonnées à cette volonté suprême qui est celle de votre dixième maison, qui indique l'aspiration secrète et le concours, la concorde ou la concordance secrète entre votre âme et l'âme du monde, qui est au-delà de votre dixième maison. Quoi qu'il arrive dans la vie, ça finira toujours, si la vie est assez longue, par une subordination à ce qui est inscrit en 10. Car la vie est plus qu'une réalisation sentimentale, affective, boursière, égocentrée, sous quelque forme que ce soit. La vie, c'est après tout quelque chose qui se sert de nous, encore bien plus qu'on ne s'en sert. Et pour savoir comment elle entend vraiment achever son action sur nous dans une vie terrestre, c'est la dixième maison qui nous le dit. Alors, quand vous avez le Neptune au sommet, et que j'ai comparé maintenant à l'âme du monde, je ne vais pas revenir sur les définitions de Neptune ce soir, c'est trop tard. Vous êtes censé le savoir très bien, tel que je vous ai donné, et que je crois que vous avez accepté comme celle que vous voyez très clairement. Il vous paraît extrêmement intelligible et démontrable. Bon, alors, les aspects Soleil, par exemple. Soleil, carré, Neptune. C'est l'aspect donc céleste. Soleil, carré, Neptune. Ensuite, je le prends en Neptune, carré, Soleil. Le Soleil est en avant, maintenant. Il est à 90 degrés de Neptune. Il est parti dans un nouveau cycle dont Neptune est le fondement. Il va fonctionner en principe, le carré peut se trouver naturellement n'importe où dans le thème, mais toujours l'interprétation clé, c'est le soleil sur l'ascendant, le Neptune sur le milieu du ciel. Alors le soleil est reparti maintenant. Le voilà devant, il prend conscience de lui-même. Lion sur l'ascendant, si vous voulez, ou le soleil là. Car l'ascendant, c'est l'aurore, c'est la première prise de conscience. Et c'est l'axe de toutes les prises de conscience succédant dans la journée. Alors le soleil est là dans l'ascendant. Et derrière lui, planant au-dessus de lui, et dans les profondeurs de son être, puisque proportionnellement, Neptune est à 4500 millions de kilomètres de ce soleil. Les mêmes proportions dans le système solaire humain que dans le système solaire général, le grand. Dans les profondeurs de vous-même, à 4500 millions de kilomètres au fond de vous-même, se trouve votre Neptune. Votre Uranus est à 2000 millions. J'avais inscrit ces données astronomiques l'autre jour. Votre Uranus à 2800 millions. Votre Saturne à 1400 millions. 1427 millions. Votre Jupiter à 777 millions. Ces chiffres, vraiment astronomiques, sont palpitants d'intérêt quand nous pensons que nous avons toutes ces proportions absolument égales en nous-mêmes. Donc, vous voyez que vous êtes un être absolument prodigieux. Bon. Alors, voilà le soleil carré Neptune. Neptune est loin. Et Neptune est loin dans les profondeurs. Et Neptune ne se révèle jamais avec ce caractère massif, positif, concret. Il n'a pas la puissance, il n'a pas fait pour avoir la concrétisation positive de Saturne, par exemple. Ni cet espace de puissance combattante, ou en tout cas opprimante, si vous voulez, de Mars. Neptune est un appel, Neptune est un enchantement, Neptune est un phare dans la nuit lointaine. Uranus est électrique, Neptune est magnétique, il appelle. C'est la mère du monde qui appelle le soleil. Dans ce cas-ci, elle ne l'appelle pas. Neptune ici, oui, appelle le soleil. Neptune carré, le soleil, oui, c'est l'appel. Viens à moi, mon enfant, dit Neptune. Je t'ouvrirai le ciel, et la porte du ciel, c'est moi, et le cœur du ciel, c'est moi. Viens à moi. Nous sommes dans le même, dans la zone que le père de Chardin appelait la zone religieuse de l'être humain. Tous aspects de Neptune, tout carré surtout, représentent la zone religieuse dans l'être humain. Mais ici, c'est l'aspect de hantise. Le soleil est hanté par cette puissance mystérieuse, et de près mystérieuse parce que c'est lointaine, et d'une qualité si subtile qu'il passera sa vie à définir et redéfinir la qualité de son Neptune, qui est bien dans son thème l'un des éléments les moins, comment dirais-je, inventoriables. Il y a un élément de surnaturel, il y a un élément de grâce dans le Neptune. Alors, soleil carré Neptune, il bat dans la vie, hanté par un rêve. Il ne poursuit pas un rêve. Ah oui, Neptune qui arrive au soleil. Mais il est hanté par quelque chose. Et il va dans la vie, d'autant plus peut-être délétère et titubant, d'autant plus incertain au sein même des certitudes qu'il doit se donner constamment pour se donner confiance à lui-même. Il est hanté par son Neptune. Et on a dit, et je crois que c'est juste, que les carrés Neptune-Soleil, et surtout celui-ci, indique une personne qui n'a pas ce qu'on appelle beaucoup de force de caractère. Bien entendu, la force de caractère, c'est quelque chose que l'on trouve dans l'ensemble des éléments du thème. Je dissèque un thème, je prends que cet aspect, je l'isole pour ce qu'il doit valoir en lui-même en ignorant tous les autres. Je ne le prends qu'en lui-même. Il semble certain que lorsque nous avons un soleil qui reçoit ce carré de Neptune et qui, par ailleurs, n'est pas autrement soutenu, le soleil, je dis, nous avons affaire à une personne qui a un certain manque de caractère, oui. Mais pourquoi? Dirons-nous, je pense en ce moment-ci à une certaine collègue astrologue de Californie, très vieille protestante d'origine, très portée sur cette grande morale protestante, Tournadel n'a pas réussi à se dégager complètement dans la science astrologique. Il disait toujours, ah, ce carré-là, ce sont des gens qui n'ont pas de caractère. Mais quand on y regarde de près, pourquoi pas de caractère? Pourquoi pas? Pourquoi sont-ils vraiment des délétères? On va dire que les gens qui ont Saturne, carré, soleil, sont des délétères. Ils aimeraient bien l'être. Ils ne peuvent pas. Mais le Neptune, oui, carré, soleil, il y a délétères. Pourquoi? Mais oui, il y a un flottement. Mais oui. Il y a du flou. Mais oui. Parce qu'on est poursuivi ou hanté par un rêve. Parce qu'on cherche quelque chose d'absolument indéfinissable. Si Neptune se définit d'emblée dans un thème, un individu, c'est un individu très spécial. Une sorte d'élu. Il n'est vraiment déjà pas tout à fait de ce monde. Nous avons des gens qui sont de ce monde. Le soleil est hanté par quelque chose de tellement vaste, de tellement profond. Et il ne peut pas, puisqu'il est en quadrature, il ne peut pas s'en dissocier. Il est poursuivi. Et quoi qu'il fasse, engagé avec la Lune, engagé avec Jupiter, engagé avec Mars, engagé avec Vénus, que voulez-vous encore? Engagé d'eux, avec tout cela. Néanmoins, toujours le fil à la patte, toujours une téléphonie secrète au fond du Soleil qui lui rappelle qu'il y a un Neptune. Il y a un Neptune. Et souvent, ce Soleil dirait, je crois que je peux m'en passer. Je peux vivre avec moins. Oh, surtout vivre avec moins. Mais non. Neptune l'appelle. Oh, il ne s'impose pas, Neptune. Il l'appelle. Et il ne peut jamais, ce soleil, oublier cet appel. Et au moment où il va s'embarquer dans quelque chose, il dit, ah, ça y est, je marche, je suis avec toi, je suis d'accord. Il se frotte les yeux, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Une autre humeur le prend, il entend une autre voix secrète, et cette autre voix secrète lui enlève tout à coup le goût, l'élan qu'il faut pour aller dans cette direction avec tel et tel collègue. Il se retire et on dit de lui, oh, il n'a pas le caractère. Ce n'est donc pas nécessairement un signe de véritable insuffisance ou de faiblesse ou de perversité. Là, sa beauté. On ne peut pas dire que des quadratures à Neptune manquent de beauté. Ce serait vraiment déformer entièrement le sens de cette planète. Mais que ces quadratures sont difficiles, ah oui, et qu'elles sont une agonie toute particulière de l'âme humaine, individuelle, d'une autre qualité que l'agonie que nous représente le Saturne carré, le Soleil, ou Vénus. Jupiter, si vous voulez. Ah, mais oui. C'est une autre espèce de croix, c'est un autre cheminement. Mais c'est le cheminement du rêve. Et Neptune, c'est le rêve. Et Neptune, c'est le grand rêve dans la vie. C'est l'auréole de la vie des choses et des planètes en nous-mêmes. Auréole flexible, souple, s'attend, allant, venant. Et évidemment, pour les gens qui sont obligés d'être, ou qui sont naturellement portés à être dans le monde strictement positif et concret. Ils regardent d'un œil un peu tarde ceux qui sont très neptuniens. Et surtout neptuniens, par des carrés. Car on ne peut pas faire grand-chose de Neptune en carré. Voilà. On est obsédé par lui, mais on n'en peut pas grand-chose. C'est une richesse comme l'éléphant blanc du roi de Siam, qu'il donnait à son favori. Ou qu'il donnait à un favori quand il n'était plus le favori, c'était une façon de le ruiner. Il lui donnait l'éléphant blanc sacré du Siam, et mon Dieu, celui-là n'osait pas le tuer, il fallait le faire vivre, et il lui coûtait toute sa fortune. Donc le bonhomme qui recevait ça était ruiné en très peu de temps. C'est ce qu'on appelle « a white elephant » en anglais, c'est une phrase courante, « Oh, cette maison-là, cet héritage-là, c'est un éléphant blanc. » Ça voulait dire ça. Or, il est certain que bien souvent, Neptune dans notre vie, c'est un éléphant blanc. Ça nous coûte les yeux de la tête, notre Neptune. Dans un carré, il nous coûte les yeux de la tête. Parce qu'il nous rapporte si peu sur le plan positif. Mais si peu. On a l'air hurlu-berlu. On se sent jamais tout à fait là. On n'est pas à la page, on n'est pas sur le rail de la masse, des autres. Et on ne sait pas leur dire pourquoi non plus. Très inconfortable. Et évidemment, comme il y a là l'élément du rêve, c'est la quadrature, n'est-ce pas? Et dans la quadrature, il y aura l'élément du rêve, il n'y aura pas l'élément positif. L'élément, là, je te prends et je me sers de toi, ou toi, prends-moi et sers-toi de moi, la conjonction, par exemple. Oh non, c'est la quadrature. Alors, dans cette quadrature, il y aura cet élément, je dis, où le soleil, ici, cette volonté d'être soi restera un peu suspendue à des fils de la Vierge. Et avec ça, temps en temps ce soleil. Alors lui, s'arrête. Oh, mais naturellement, il ne se prend pas. Tout à coup, il se dit, « Ah, je suis carré Neptune. Eh bien, je suis pourtant pas. Je suis sorti, moi, de la cuisse de Jupiter. Je suis quelqu'un. Je viens de Dieu. J'ai Dieu au fond de moi. » Alors, noblesse oblige, d'accord, mais surtout, puisque je l'ai, ben maintenant je n'ai qu'à l'être. Oui, mais c'est le carré. Il ne peut pas l'être comme ça. Et il va avoir à apprendre que ça va prendre du temps avant qu'il y ait un accord parfait entre lui et le Neptune. D'où ces utopies, ces chimères, des imaginations exagérées, aussi des impatiences, naturellement. C'est un aspect de maladresse sur un plan ou un autre, ou plusieurs à la fois. Le soleil, carré, Neptune, devant ou derrière. Vous comprenez si vous portez un éléphant blanc hein? Si vous avez chez vous un éléphant blanc, il faut lui donner la meilleure chambre. Il ne vous sert à rien. Vous êtes très honoré par sa présence. Il est plus important que vous. Et vous lui subordonnez tout, mais il ne vous apporte rien. Et vos voisins vous considèrent très malheureux, car naturellement, vous n'avez des moyens pour rien d'autre que pour vos éléphants blancs. Passons, car le temps passe très vite. Et là, j'arrive à 10h30. Je veux prendre un instant, alors pour finir, un aspect extrêmement délicat. Il touche alors directement ici à l'intelligence de l'homme, à cet outil constant qu'on emploie nuit et jour dans le rêve comme dans la vie diurne, c'est Mercure. Mercure carré le soleil. Mercure, je enlève ça. Mercure carré le soleil. Oh, que c'est difficile. Que c'est difficile. Comment ? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, oui, oui. Mercure, carré, Neptune. Oh, que c'est un aspect divinité. Le soleil, c'est le père de Mercure. La lune en est la mère. Mercure, c'est l'enfant. Le développement de la vie, c'est essentiellement le développement de votre Mercure. L'enfant du principe fixe en vous, le soleil, et du principe mouvant en vous, la lune. Ça me fait de trois choses. Le principe fixe, le principe mouvant, et le rapport entre les deux. Le rapport entre les deux, c'est Mercure. L'intelligence, c'est le rapport qu'il y a, que nous établissons tout le temps, entre ce qui est permanent en nous et ce qui n'est pas permanent, et ce qui change en nous. Entre le mouvant et le fixe. Quand nous avons Mercure conjoint à la lune, le rapport est beaucoup trop dépendant de ce qui change. Quand nous avons Mercure conjoint au Soleil, le rapport dépend beaucoup plus de ce qui ne change pas. Par conséquent, un Mercure conjoint au Soleil est un Mercure infiniment plus intelligent en lui-même. Il est beaucoup plus capable de tenir le coup de tout ce qui change dans la vie. Et il peut dire ce que le Soleil, le principe fixe, a à dire au mouvant. Ainsi parle l'Éternel. C'est un Mercure conjoint au Soleil parlant à la lune. Et ainsi parle le changement. Ainsi parle la fantaisie. C'est Mercure conjoint à la lune, répondant à son père, le soleil. Il y a encore cette Mercure. Dans les bras de sa mère, l'enfant n'est pas sevré. L'enfant n'est jamais sevré. L'intelligence de l'homme n'est jamais sevrée, elle ne devient pas solaire si le Mercure conjoint la Lune. Elle a ses richesses, elle les a par la Lune, mais est-ce qu'elle dépend de la Lune? Et dans la vie, nous avons la démonstration dans l'évolution que le plus on se sert de la Lune, mais le moins on en dépend, le mieux on se porte et le mieux on évolue. Dire cela, ça veut dire le plus on se sert de ce qui change tout le temps autour de nous. Et le moins on dépend de ce qui change autour de nous. le plus on est vraiment dans l'axe de l'évolution humaine. Neptune appelle le Mercure. Alors, c'est l'enfant du Soleil et de la Lune. C'est un petit être, Mercure. C'est un œil, il est en lui-même, c'est comme un œil. Il a une neutralité. Il va porter messager des dieux. Il va porter ce qu'on lui dit de porter. Il portera des choses de sa mère, et combien? Il portera des choses de son père, et combien? De sa, donc, des attributs du père, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne et tout le reste. Mais il est bien obligé de les porter, mais toujours appelé par son Neptune. Toujours appelé par son Neptune. Alors, il faut bien le dire, c'est pour lui un effort fou de saisir où est le phare, de vraiment savoir où il est, car si vite le Mercure, l'œil de Mercure, est bousculé par ce qui est à côté de lui. On met si vite. Alors, de loin en loin, ah oui, 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 le phare est là. Alors, il en fait une photographie. Il se le passe à lui-même, il entre dans le soleil, et il dit, oui, oui, mais c'est comme ça. C'est fugitif. Et les trois quarts du temps, il se trompe. Il le croit là où il n'est pas. Il y a l'élément de chimère. Il y a une extension demandée au système nerveux de l'individu, parce que Mercure représente la structure nerveuse de l'individu. Il y a une extension d'un caractère très spécial demandée au système nerveux de l'individu, qui est très dur à porter. Et il faut que par ailleurs le thème soit solide. Il y a des supports énormes pour qu'il n'y ait pas quelquefois un certain déraillement de l'intelligence. Un déraillement d'un ordre tout autre, mais tout autre, qu'un aspect Uranus carré Mercure. C'est de nouveau trop demandé à Mercure. C'est trop beau. Et il est trop petit, ce Mercure. Dans le début de la vie, assurément, par les progressions du thème, le Mercure va connaître des révélations magnifiques, puisqu'il est organisé intérieurement pour être au pied de Neptune. Par conséquent, il y aura quelque chose en lui qui, au moment voulu, répondra magnifiquement à ce grand maître du fond de lui-même. Quand il y a ce carré-là, c'est encore presque plus dangereux, car il se croit lui-même directement issu du Neptune. Il se croit en tout cas béni, ou béni, ce n'est pas le mot, parce que la quadrature n'est pas une bénédiction. Il se croit sous le mandat de ce Neptune. Et il croit qu'il reçoit le message de Neptune, l'ordre de Neptune, et 9 fois sur 10, il ne le reçoit pas. C'est-à-dire, 9 fois sur 10, il ne le reçoit pas juste. C'est ça, le carré. Parce que le carré indique toujours que quelque chose doit être créé. Quelque chose doit venir des profondeurs de l'être et arriver dans la manifestation concrète. Mercure, carré Neptune, n'obtient pas, ne peut pas, n'est pas outillé pour des manifestations concrètes et directement utilitaires. Il n'est pas organisé pour, par conséquent, il tente à les ignorer et il est paresseux pour tout ce qui est de ces domaines-là. Le temps m'interdit d'en dire davantage. On a en effet trouvé souvent, on a cru trouver souvent, que le carré Neptune-Mercure afflige l'intelligence. Je l'ai dit, c'est un effort énorme pour l'intelligence. C'est un effort de montée quand même. Et si on échoue, c'est pour avoir quand même tenté quelque chose dans la zone religieuse de nous-mêmes. Vaut mieux ça, après tout, que de se livrer bêtement au magnétisme grégaire. Vaut mieux se distinguer, quel qu'en soit le prix, peut-être simplement Monsieur Prud'homme dans l'Église. Alors, chers amis, je vous remercie de votre attention. Je suis très heureux de ces contacts de cet hiver. Je vous ai donné, je crois, le meilleur de moi-même. Et...